l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je reçois aujourd'hui, le jeu c'est Michel Collomb, reçoit aujourd'hui Annie Barbanel, membre de l'association Pour un sourire d'enfant. Voilà, donc je vais tout de suite lui passer la parole. C'est une association qui fait partie de la Maison des territoires du monde depuis plusieurs années et dont la spécialité, dont le champ de travail est le Cambodge. Alors Annie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Cambodge avec les interventions de votre association? Qu'est-ce que vous obtenez comme résultat?
D'abord, bonjour à tous et merci Michel de ton invitation. Alors, l'association, effectivement, va bientôt fêter ses 30 ans d'existence. Et depuis ces 30 ans, les enfants qui ont été trouvés sur la décharge ont bien grandi, sont tous devenus des adultes, d'autres arrivent malheureusement, puisque la misère est toujours présente. Et actuellement, on a 6500 enfants dans tous les programmes de formation de PSE, puisque l'objet de PSE, c'est avant tout tirer de la misère et amener à un métier. Donc on a 6500 dans tous les programmes, on en a 1500 en formation professionnelle, 4000 dans l'éducation normale publique, 1000 en rattrapage scolaire. Et je reviendrai sur le détail.
Oui, il faudra
Voilà, on reviendra sur le détail. Voilà.
Mais on pourrait peut-être parler déjà de cette fameuse décharge. Ce serait peut-être le point de départ qu'il faudrait souligner. Il y a eu plusieurs associations qui ont travaillé avec des enfants qui travaillaient dans les décharges, en Égypte en particulier avec Sœur Emmanuel. Mais comment ça s'est présenté dans le contexte du Cambodge avec une guerre qui était encore dans toutes les mémoires?
Exactement. Donc en fait, les fondateurs, Christian et Marie-France Despalières, à l'époque, qui avaient déjà sillonné, comme tu viens de le dire, sur la décharge de Sœur Emmanuel en Égypte, ont découvert, dans les années 93-90, cette décharge à Phnom Penh qui sortait de la guerre, puisque ça remontait à 75, mais il y a eu des séquelles telles que, bon, il y a eu quand même une bonne déportation de la population des villes. Et ils ont découvert ces enfants sur la décharge, la première décharge.
C'était la plus importante de Phnom Penh.
Qui a disparu depuis, qui a été remplacée, qui a été éloignée de la capitale, la nouvelle. Et la première chose qu'ils ont demandé aux enfants qui les ont découverts, c'est « Qu'attendez-vous de nous ?» Ils ont répondu sur deux points. Juste un bol de riz et surtout lire et écrire. Ce qui était vraiment une demande importante. C'est comme ça qu'est partie l'aventure. Alors, c'est vrai que depuis, cette décharge a été fermée. C'est devenu une grande colline. Vraiment, on n'imagine pas qu'il y avait une décharge. Elle a été déplacée beaucoup plus loin. Et pour Marc-Christian et Marie-France, ce qui était important, c'était de tirer ces enfants de la décharge pour pouvoir les scolariser. Et en compensation, puisque ça faisait un gros manque à gagner pour la famille, une distribution de riz par mois pour les parents. Permettre également aux jeunes mamans, parce que beaucoup de ces familles étaient monoparentales, puisque bon, les papas, c'était, premier, c'était les enfants soldats.
Avec les victimes de la guerre,
peut-être. C'était les enfants soldats.
Oui.
Et malheureusement, bon, on est quand même maintenant quand même à 50 ans, et malgré ce, ça se perpétue. Et donc les mamans, on leur propose un travail, une formation de couturière. Et également, le centre a ouvert des petites crèches pour accueillir les enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés. Un accueil de jour, voilà. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils ont démarré avec des enfants en scolarité et au fil des années, ils ont grandi et il a fallu arriver aux formations professionnelles.
D'accord. Alors, le bol de riz, c'était peut-être assez facile à trouver dans le Cambodge de l'époque, mais la formation savoir lire et savoir compter, ça c'était une autre paire de manches.
Alors, savoir lire et écrire, il a fallu former des enseignants sur place, parce que l'idée c'était de leur apprendre à lire et à écrire en Khmer. Pour Christian et Marie-France, ce qui était très très important, c'était de redonner à l'enfant son identité culturelle, son identité d'enfant cambodgien. Et d'ailleurs, en parallèle du fait de lire et écrire, ils ont développé le réapprentissage de la danse traditionnelle khmer. Pour que ces enfants retrouvent leur propre identité, beaucoup d'entre eux, voilà. Donc ils ont formé des jeunes enseignants sur place.
D'accord.
Ils sont tous... Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au Cambodge même, il y a 600 salariés cambodgiens, entre les travailleurs sociaux, les enseignants, tout le personnel de la cuisine, puisqu'il y a donc la cantine sur place. Il y a 600 salariés cambodgiens et actuellement, depuis ces dernières années, la directrice du centre est une ancienne chiffonnière, Liakena Despalières, qui a été donc adoptée à sa demande par Christian et Marie-France.
Elle a été adoptée par les fondateurs de l'association.
En fait, oui, Liakena s'était présentée, enfin, ils l'ont recueillie sur la décharge, elle avait 7-8 ans. Et après, Liakena suivait partout Christian pour l'aider à soigner les enfants, tout ça. Un jour, ils lui ont dit « Mais où est-ce que tu as appris le français ?» Et Akena a répondu « Mais en restant avec vous, pour soigner les enfants. » Et elle avait appris comme ça, sur le tas, à parler français. Et elle leur a demandé s'ils pouvaient l'adopter. Ils lui ont dit « Non, non, tu as une maman, donc on ne peut pas t'adopter. » Mais Akena a insisté, ils sont allés voir la maman. La situation était très, très difficile. Et elle a donc, Akena a été adoptée. Elle s'appelle Akena Despalières. Et c'est elle qui est directrice du centre de Phnom Penh depuis 3 ans au moins.
Mais alors, les 600 ou 700 personnes dont tu parlais, c'est des gens qui sont financés, qui sont payés par l'association?
Exactement.
D'accord.
Exactement. Et l'association, justement, c'est ça qui est important, le financement de PSE est à 99% financement privé.
Ça, c'est assez rare.
Voilà. Donc, c'est une demande de façon à être autonome. Et... Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces antennes qu'on a en France. On a aussi en Angleterre, en Suisse, Singapour, si je ne m'abuse, aux États-Unis. Et la plus grosse, il y a une très grosse antenne qui est constituée par les anciens de chiffonniers à Phnom Penh sur place.
D'accord.
Parce que beaucoup de ces enfants devenus adultes avec un métier ont demandé... ils se sentaient redevables de tout ce qu'ils avaient reçu. Et à leur tour, ils se sont constitués en antenne, une des plus grosses antennes. Et ils organisent des événements. Ça, c'est important.
Mm-hmm.
Voilà.
Ouais. Et donc, dans le récit que j'ai pu lire là, sur votre association, on s'étonnait que les enfants, après avoir été formés... à la lecture, à l'écriture, etc., à compter, on les retrouvait sur la décharge. Et à cette occasion, les gens, vous vous êtes réunis et vous avez décidé qu'il fallait absolument mettre l'accent sur la formation professionnelle.
Exactement.
Voilà. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Parce que relation professionnelle, c'est très divers d'abord, et puis ça coûte cher, généralement. C'est difficile.
Toujours sous le même principe du bénévolat des uns et des autres, mais surtout, Christian et Marie-France, pour rester très pragmatiques et très près du terrain, on regardait quels étaient les besoins, pour ne pas faire des formations inutiles. Et d'ailleurs, donc il y a eu la mécanique très rapidement, il y a eu un atelier mécanique, une formation mécanique, ouais. Une école de techniciens d'électricité,
ouais.
Engie, enfin, on a eu des partenariats avec de grosses entreprises françaises qui sont venues, qui ont répondu à l'appel de Christian et Marie-France.
Ouais.
On a eu l'école d'hôtellerie de Lausanne qui s'est présentée. Ensuite, on a eu le directeur de l'ESSEC, il y a longtemps de ça, qui est venu sur place, et c'est comme ça qu'a été créée la filière gestion-vente.
D'accord.
Qui attire beaucoup de jeunes.
Ouais, ouais.
Donc il y a eu l'hôtellerie, la mécanique, et au fur et à mesure de la demande, et du terrain, en fait. Il fallait se coller au terrain et à la demande du terrain.
Ouais.
Et en fonction des capacités de chacun. Il y avait des filières courtes, comme des filières de coiffure, d'esthéticienne.
Ouais.
Des filières courtes, comme du personnel en dehors de la restauration d'hôtellerie. Pour les carrières sociales aussi, parce que beaucoup de ces jeunes disent tout ce qu'on a reçu, on veut le redonner, et beaucoup se sont orientés vers les carrières sociales. Nous-mêmes, on a eu d'ailleurs, ils sont là, et quand on va là-bas, dans le centre, quand on les visite, on a toujours un sourire de reconnaissance sur tous les visages. Et puis, il y a une autre filière, moins connue, mais bon, je voudrais quand même la mentionner. C'est l'école de cinéma. Parce que bon, si on regarde les chiffres, effectivement, en gestion-vente, on a 42% d'étudiants. En école d'hôtellerie, on en a 27%. En école du bâtiment et de la mécanique, ça, c'est vraiment une filière pour les filières courtes, là, 26%. Et on a 7% en école de cinéma. Alors, on va dire, l'école du cinéma, voilà. Il y a quelqu'un qui a visité le centre et que Christian a voulu raccrocher, c'est Patrice Lecomte, le réalisateur, qui a visité le centre, qui a fait un film sans parole, qui s'appelle Dogora, sur une musique d'Étienne Perruchon, dont on écoutera tout à l'heure un extrait. Et Christian Despalières a dit à Patrice, tu devrais rester ici avec moi et créer une école du cinéma. Alors Patrice lui a dit, je ne sens pas le courage que tu as, mais je ne perds pas de vue cette idée.
D'accord.
Et quelques temps après, rapidement, il a créé toute une école du cinéma.
Oui.
Et une actrice très connue, Angelina Jolie, qui a voulu tourner un film sur place, s'est appuyée sur l'école du cinéma, sur les techniciens, pour tourner son film.
Et c'est vrai que dans le monde du cinéma, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, hein, qui font leur spécialité.
Voilà, donc, et ces jeunes, donc c'est l'école du cinéma et de la photo. Et ça a attiré beaucoup de jeunes. Et...
Oui, et puis c'est motivant.
On
peut dire que c'est très motivant.
Voilà.
Pourquoi ne pas écouter maintenant ce petit extrait? Ben, c'est un extrait de 3 ou 4 minutes, je crois.
Oui, tout à fait.
Thank you.
Oui, alors on peut revenir un peu sur ces questions de formation. Par exemple, quand les animateurs de votre association découvraient le retour d'enfants sur la décharge, ils ont tout de suite pensé qu'il fallait donc une formation professionnelle plus sûre, et puis surtout que la pensée, que la pauvreté était très présente et forçait ces enfants à revenir.
Alors c'est un fait que au démarrage beaucoup repartaient sur la décharge, d'où cette idée effectivement de continuer à la formation, de les sortir vraiment de la misère pour les amener à un métier. D'où tous ces multiples programmes. Et alors, donc je disais tout à l'heure, le programme de PSE, le programme scolaire de PSE a été reconnu par le gouvernement cambodgien.
Ça, c'est un acquis.
Voilà, c'est un acquis, d'où la présence de tous ces enfants de notre centre dans ces écoles
D'accord.
publiques, mmh. avec un regard quand même de PSE concernant, par exemple, détails tout à fait, les toilettes dans les écoles publiques. PSE s'en souciait quand même de voir comment ça se passait. Et un accompagnement, parce qu'à la suite du Covid, quand même, il y a eu de très gros décrochages. Donc, ils ont mis en place un soutien scolaire de tous ces enfants.
Oui.
En plus du programme de rattrapage scolaire qui se fait au centre. Qui, lui, ça fait un moment qu'il existe. Mais depuis le Covid, il a fallu rajouter ça. Et autre problématique.
C'est-à-dire, c'est une fiche de santé, c'est ça?
Non. Quand je parle de soutien scolaire, ça n'a pas du tout sur la santé. Si tu veux, c'est un complément de. Ah. Si tu veux, au niveau, après le Covid, il y a eu quand même du décrochage au niveau scolaire, mais de la part des élèves, mais parce qu'il y a eu quand même un gros problème au niveau des enseignants, tout ça, le redémarrage de tout le système scolaire en général.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a eu ce soutien scolaire qui a été rajouté. Sur place, dans le centre, il y a toujours eu ce qu'on appelle le rattrapage scolaire de tous ceux qui arrivaient, qui ne pouvaient pas insérer le système public. Il fallait les reprendre sur place dans le centre. Donc ça existe depuis quand même très longtemps.
Mmh. Mmh.
Voilà. Et après, ce qu'on disait aussi, c'est que de tous ces enfants, ils arrivaient jusque là où ils pouvaient. Il n'était pas question de les pousser plus loin, de ce qu'ils souhaitaient, de ce qu'ils pouvaient être capables de faire.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Donc, je voulais quand même revenir sur quelque chose. On disait que le financement de PSE est à 99% privé. Par exemple, en 2023, la totalité des ressources s'est élevée à 10 millions d'euros. Là-dessus, on a 53% dû au parrainage, 17% les dons et mécénat. Et si j'en viens là, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est que si les PSE arrivent à fonctionner de façon pérenne, alors qu'on a nos travailleurs sociaux qui parcourent tous les bidonvilles, qui ramènent des dossiers de plus en plus importants, pour assurer la pérennité d'une formation pour un enfant, on a institué ce qu'on appelle un parrainage, mais qui n'est pas du tout un parrainage nominatif. C'est un parrainage programme scolaire. Autrement dit, quand il y a un parrainage qui est mis en place, ça veut dire qu'on va sortir un dossier d'un enfant qui va se mettre sur les rails d'un programme scolaire. Donc cet enfant sera assuré d'arriver à un métier où il pourra arriver. Et ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est que ce parrainage moyen, effectivement, il est de 47 euros par mois, hein, avec une déduction donc de 66%. Mais il faut savoir que même un parrainage, ne serait-ce que de 10 ou 15 euros par mois au démarrage, permet déjà de débloquer un dossier. Et un enfant est mis sur les rails. Il arrivera au bout. Même si ce n'est que 10 ou 15 euros. Même si ce parrainage s'arrête pour une raison X, Y, Z, cet enfant, lui, on ne va pas lui couper. Il va continuer. C'est parti, il y aura d'autres fonds qui vont arriver. Le parrainage, au fil des années, on peut l'augmenter. Parce qu'on comprend bien que lorsqu'on démarre un parrainage, on n'a pas les mêmes moyens, on a des enfants à charge, on est en pleine activité. Donc c'est très difficile de se dire, je ne peux pas me permettre. Mais si on ne met que 10 euros par mois au démarrage, on se dit dans quelques années, on l'augmentera. De savoir qu'un enfant, voilà, il va démarrer son programme, c'est ça le plus important. D'accord. Et c'est vraiment le cri d'alarme et la demande qu'on a en ce moment. Je sais que dans beaucoup d'associations, il y a ce gros problème de pouvoir demander une aide pérenne. Mais dans ce cadre-là, c'est vrai que de se dire 10 euros par mois, je débloque un enfant, c'est quand même bien. Bien dans sûr, quelques oui. années, on verra oui. après, voilà. Oui. Et puis quand on voit effectivement que les fonds, surtout les fonds qu'on a, c'est de la moitié des ressources. Voilà. Parallèlement à ça, c'est vrai que dans chaque antenne, on mène des actions. Je prends l'exemple de l'antenne de Montpellier, par exemple, Languedoc et Roussillon, parce qu'on est non seulement sur Montpellier, mais on a un relais à Perpignan. D'accord. Donc entre les deux entités, on fait quand même en ressources autour de 50 000 euros d'accord. par an. Ouais. À travers des actions comme j'avais fait un appel une fois solidaire, puisqu'à partir de l'automne, tous nos bénévoles vont ramasser des olives dans la région. On fait appel aux gens qui ont des oliviers. Ils ne savent pas quoi en faire. Donc, on leur donne un téléphone, ils nous contactent, on vient ramasser les olives. Et on presse les olives à Combaillot, à l'olivier, et merci. On vend l'olive. Et la recette, l'année dernière, était quand même de 4 000 euros, quelque chose comme ça.
Super. Voilà. Non, mais ça, c'était original. Comme
voilà. Et alors, ouais. Donc, je parle souvent de la solidarité. Donc, nous, on la vit au sein de la Maison des Territoires, la solidarité internationale. Oui. Mais on la joue aussi entre antennes de PSE. Parce que, en 2020, nous, on n'avait jamais ramassé les olives dans la région, hein. C'était pas, et, le responsable de PSE PACA, l'antenne de PACA, m'a appelé en me disant, tu sais, j'ai un cousin de cousin qui a des olives, là, vers Montpellier. Est-ce que vous voulez pas ramasser les olives comme nous, ici, en PACA? Alors j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, on l'a jamais fait, mais on peut bien l'essayer. Et depuis, tous les ans, nous ramassons des olives. C'est devenu une des actions phares de l'antenne. Oui. Et tous les bénévoles s'y mettent. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, on vous redemandera de faire l'appel. Oui. Parce qu'on a tous les contacts. Et ensuite, la récolte de l'huile, quasiment, elle est vendue même avant d'avoir été récupérée, quoi. Oui, parce que oui. les gens connaissent.
Il faut faire un effort supplémentaire, hein, parce que. Voilà. On aimerait bien en profiter aussi.
On a organisé deux galas, dont un, on a eu la chance par Patrice Lecomte, toujours oui. lui, oui. qui nous a mis en contact avec Frédéric Lopez, animateur de télévision. Oui. Frédéric Lopez, quand il est arrivé à Montpellier pour ce gala en 2019, ne savait pas trop où il mettait les pieds. Et à la fin du gala, il nous a dit à tous et à la présidente nationale, je soutiens PSE à tous les niveaux. Il s'est devenu un des piliers de PSE avec Patrice Lecomte.
Oui, très bien.
Voilà. On a aussi organisé des expositions de tableaux d'artistes.
Oui.
Voilà. En fait, tous les fonds viennent des différentes antennes. Donc, il y a des organisations d'accord. de concerts, de chorales, de pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, on a des troupes de théâtre qui sont vraiment, qui nous soutiennent régulièrement, qui jouent gratuitement pour nous oui. dans la région. Et tous ces fonds sont très importants. Il y a les mécénats, tout ça. Et en parallèle, je dis bien en parallèle, il d'accord. y a ce besoin de parrainage.
D'accord. Et le financement est géré au niveau local ou bien au niveau national?
Alors, chaque antenne est autonome.
Je pose cette question parce oui. que ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne dans les associations.
Alors, on a un trésorier national.
Oui.
Là, c'est pour tous les fonds généraux. Et chaque antenne a son trésorier local qui est en lien direct avec le national.
Oui.
Donc, tous les fonds, donc on a un compte, tous les fonds sont remontés systématiquement au national.
Ah, d'accord.
Voilà, des comptes. Tous les chèques qu'on reçoit après une action, on les enregistre tous.
Oui.
On les envoie à Paris. Et c'est Paris qui envoie les reçus fiscaux oui. directement.
Alors, je comprends mieux pourquoi vous avez choisi le financement personnel.
Oui.
Parce que quand on dépose une demande de subvention dans les institutions locales, en particulier la région, la métropole, la première chose qu'ils regardent, c'est où est notre bureau national. Et s'il n'est pas dans la région, eh bien, on a bonne chance de ne pas avoir, c'est une mauvaise chance plutôt, de ne pas avoir de subvention.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est une chose qu'il faut savoir, que Évidemment, je comprends que la région, la métropole, veuille donner une priorité
localement.
Localement.
Ce qui est logique.
Mais des fois, c'est un peu énervant.
Voilà. Ça, c'était un souhait des fondateurs dès l'origine,
oui.
Qui ont dit on se débrouille par nous-mêmes, on trouve nos propres fonds.
Oui.
Voilà. On trouvera toujours. Voilà.
C'est peut-être des gens qui avaient un réseau suffisant pour pouvoir mobiliser à droite et à gauche.
Alors, oui, il y avait la famille, il y avait les amis, puisqu'au départ, c'était toute la famille qui s'est investie, tout le réseau local. Chaque antenne a fait la même chose. Mais le fondateur avait ça de particulier. Il a dit, de toute façon, on trouvera. Et en anecdote, là, il y avait une soirée, alors je crois que je ne me tromperai pas, je crois que c'était en Isère ou quelque chose comme ça. Parce que chaque année, jusqu'à il y a 2 ans, chaque année, les fondateurs faisaient une tournée en France. Et c'est cette tournée qui est à la base de tous ces parrainages que nous avons, essentiellement. Leur tournée, ils faisaient toute la France, en Belgique, en Suisse. Oui, j'ai oublié la Belgique aussi. Et lors d'une tournée, il y avait une personne qui est arrivée pour la soirée. Donc, Christian et Marie-France avaient installé tout le matériel technique pour la soirée, pour la conférence, il y a les projections du film, on invite les gens. Une personne est arrivée, toute seule. Alors, l'équipe a dit à Christian et Marie-France, bon, on annule alors. Christian a dit, pas question. Une personne est venue, on se doit d'honorer sa présence et on va maintenir la soirée. Donc, il a projeté les films, il a eu des questions avec cette personne, pas très jeune. Cette personne, quelque temps après, est décédée et a tout légué à PSE.
C'est formidable.
J'avoue, je voulais quand même le dire,
oui,
parce que on a ça en tête en se disant, Christian le disait bien, on y arrivera de toute façon.
Et oui, il avait raison.
Voilà. Ouais. Et donc, moi, je sais que ça me guide à chaque fois qu'on a une action. Au départ, quand on nous a appelé pour les olives, je me disais, bon, on va demander ça. On sort du Covid, on est en plein. Alors, par contre, l'avantage, c'est qu'on était encore en reconfinement Covid. Et il nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, moi pour les olives ici en PACA, les ramasseurs d'olives sont considérés comme ouvriers agricoles. Donc ils ont un laissez-passer. Donc ils peuvent aller cueillir les olives. Donc à l'automne 2020, les bénévoles étaient ravis, chacun avait son petit laissez-passer, on est parti ramasser les olives, on prenait l'air. Mais depuis, l'action a perduré et tous les ans, on a une responsable dans l'antenne qui manage cette action et fait appel à tous les bénévoles pour les olives.
Voilà. D'accord.
Donc l'idée, elle est là aussi, c'est que, bon, pas de subvention, en fait, mais bon, pour faire confiance, quoi. On se dit, on va lancer une action, on verra bien. Voilà.
D'accord. Et donc, là, vous allez approcher de votre 30e anniversaire. Est-ce qu'il y a des projets qui se dégagent déjà?
Alors, on n'en a pas encore entendu parler. Je pense que ça va venir, parce que quand même, ça se fête.
Oui.
On le fêtera localement aussi.
Oui, localement aussi.
Comme on l'avait fait pour les 20 ans. Je me rappelle très bien pour les 20 ans de PSE, à l'occasion de la quinzaine des... à l'époque, c'était les tiers-mondes, on ne disait pas les territoires.
Oui. Hein.
Et j'avais demandé si PSE pouvait avoir un stand situé face à l'Opéra Garnier, enfin à l'Opéra La Comédie.
Oui, oui.
Et donc, on a organisé toute une journée de présence avec des jeux, tout ça, pour fêter les 20 ans.
Oui, je me rappelle de cette journée.
Voilà, et ça avait été très positif.
Face à l'Opéra.
Face à l'Opéra.
Ouais.
Et on a vu des jeux, un photographe de Paris nous avait prêté pour faire des photos avec des danseurs cambodgiens.
Oui.
Et une élève sage-femme est arrivée, elle m'a dit, oh, c'est très intéressant ce que vous faites, tout ça. Du coup, elle a demandé si on pouvait faire un partenariat avec la commission solidaire de l'association des élèves sage-femmes, qu'on a toujours depuis, et qui nous fait des projections de pépites, où ils ont organisé un vide-grenier pour nous, enfin voilà.
Qu'est-ce que vous appelez projection des pépites?
Alors, des pépites, c'est un film qui est sorti en 2016, retraçant l'histoire de PSE.
Ah, d'accord, oui.
Voilà, ça s'appelle Les Pépites.
Avec Patrice Lecomte, c'est ça?
Alors là, non, c'était Xavier de Lausanne. D'accord. C'est Xavier de Lausanne qui avait tourné ce film à l'époque. Il a pris longtemps pour le faire et il est sorti en octobre 2016. Malheureusement, Christian est décédé, je crois, le jour ou le lendemain de la sortie du film.
Ah oui.
Voilà. Et ce film retrace toute l'histoire de Christian et Marie-France.
Très bien.
Donc, on se propose d'ailleurs, justement, étant donné que Marie-France ne peut plus trop se déplacer pour faire les tournées, on va maintenant, l'idée, c'est de se regrouper par des petites soirées, de projeter soit ce film des pépites, pour ensuite discuter avec les personnes, faire connaître, pour les parrainages, soit un autre film qu'on a qui est plus court. Voilà, l'idée, c'est de prendre la relève de D'accord. la tournée.
D'accord.
Voilà.
Bien, je te remercie, Annie. Hein, ça a été très intéressant, tout ce que tu nous as présenté. Et on arrive au terme de notre émission. C'est l'émission de la Maison des Territoires du Monde et de la Solidarité Internationale. Et chaque semaine, nous intervenons pendant une demi-heure avec un peu de musique. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.